Il est 6h05 minutes. À la météo, il y a toujours cet avertissement de chaleur intense qui est en vigueur depuis 3h15 ce matin. Bon, pour qu'il y ait une canicule, ça prend plusieurs conditions réunies. Il faut qu'il y ait plusieurs jours de suite là avec des températures au-dessus de 30 degrés. Ce sera le cas encore une fois aujourd'hui. Il va faire 34 aujourd'hui avec l'humidex. Là, ça va nous mener, donner une sensation de 39. Demain, vendredi, ce sera ensoleillé également, maximum de 32. Et samedi, encore une fois, des nuages, 60% de risque d'averse. Mais là, ça va descendre un peu en dessous du 30 degrés. Ça va être 29 degrés pour la journée de samedi. Mais la nuit, il fait quand même chaud, là. Et en ce moment, vous voyez, il fait 20 degrés. On a perdu 1 degré. Tout à l'heure, il faisait 21. Là, on est à 20 degrés. Donc, c'est une des conditions pour qu'il y ait canicule. Il faut que la température, la nuit, demeure assez élevée. Donc, à 20 degrés, là, c'est le cas. Et ça fait en sorte que le fond de l'air, comme disait ma grand-maman, n'arrive pas à se refroidir. Donc, ça nous laisse des journées un peu plus chaude, et c'est ce qu'on vit depuis le début de la semaine. Bon, dans les différents quotidiens, ben, continuons à parler de cette canicule. Malgré qu'il y ait eu 66 décès l'an dernier liés justement à cette canicule, ben, les autorités de Montréal n'ont pas apporté de changement majeur au plan d'action en cas de chaleur extrême qui est donc le même que l'an passé. Et celui de l'an passé, c'était le même qu'en 2010 et en 2011. Alors, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'a dit hier la mairesse Valérie Plante, c'est que, bon, pour l'instant, il n'y a pas de raison de lancer un plan d'urgence plus élaboré. Selon la sécurité civile, il y a chaleur extrême lorsque le mercure dépasse 33 degrés, ce sera le cas aujourd'hui, mais durant 3 jours de suite, ou lorsque la température minimale excède 25 degrés, 2 nuits d'affilée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, Valérie Plante a dit « Nous sommes présentement en état de veille, mais il n'y a pas de raison de lancer davantage là, de mesures pour faire en sorte que les gens soient plus confortables. Si c'était le cas, bien, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge les heures d'ouverture des piscines et des endroits qui sont climatisés, qui appartiennent à la ville, ainsi que des campagnes de sensibilisation, faire du porte-à-porte, etc. Il reste qu'il y a quand même là, des mesures qui sont prises actuellement. Mais de plus en plus, on parle de faire comme ce qu'on a fait en France, entre autres, parce qu'en France, on avait eu une canicule importante en 2003 qui avait coûté la vie à 15 000 personnes en France à l'époque. Et on a créé une espèce de registre volontaire des personnes à risque. C'est-à-dire que si vous êtes une personne âgée puis vous pensez être à risque ou une personne malade ou quoi que ce soit, vous avez peut-être vous êtes plus sujet à la chaleur, à souffrir de la chaleur, bien on peut quand même avoir recours à ce registre pour avoir des visites fréquentes, puis aller voir par les autorités là comment se portent les gens qui sont au registre. Dans le journal Le Devoir, ce matin, ben évidemment, on parle de ce rapport qui a été déposé hier par le CIUSSS de l'Estrie sur ce drame épouvantable de cette fillette de 7 ans de Granby qui est décédée le printemps dernier de maltraitance. Et là, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, va annoncer aujourd'hui que des millions de dollars vont être investis, si on veut, dans les services de la Direction de la protection de la jeunesse pour l'embauche d'intervenants. Il va en faire l'annonce aujourd'hui à Montréal, au lendemain du dépôt de ce rapport. Et l'argent devrait permettre de réduire les listes d'attente dans les DPJ un peu partout au Québec. C'est le manque de suivi, semble-t-il, qui est le plus problématique à la DPJ. On aura l'occasion de parler du dossier spécifique là, de la fillette et du rapport du CIUSSS, avec le président directeur général un peu plus tard, le docteur Tremblay un peu plus tard sur nos ondes. À part ça, qui a dit qu'il ne se passait jamais rien à Québec? C'est un peu triste cette histoire-là quand même. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, écoutez, il y a un événement qui se tiendra le 24 août prochain au bar Le Saint-Joseph, c'est dans Le Bourgneuf. Vous allez me dire, ouais, c'est loin, là, c'est Québec. Mais c'est un événement qui circule un peu partout à travers la province. Ça s'appelle un casting party. Ça se passe dans un véhicule récréatif, un Winnebago, communément appelé, qui va être stationné dans le stationnement d'un bar. Et là, il y a des hommes, des femmes et des couples qui entrent dans le Winnebago en question et qui vont être filmés en train d'avoir des ébats avec des actrices porno. Alors, c'est le bar Saint-Joseph qui organise ça. C'est eux qui reçoivent l'événement, mais qui est organisé en réalité par la maison de production montréalaise AD4X. Évidemment, tout ça va être filmé, là, parce qu'on ne fait pas ça juste pour le plaisir des gens qui entrent dans le Winnebago. Et donc, le casting party a suscité la controverse partout où il est passé, dans plusieurs endroits au Québec, notamment Saguenay, Sherbrooke et plein d'autres endroits également. Et là, ben, les organisateurs, eux autres, ils disent « Ben non, c'est pas grave, les auditions porno, c'est légal, puis les participants sont majeurs, sont vaccinés, ils ont des rapports consensuels, alors je vois pas pourquoi ça pose problème. Sébastien Beaulieu, qui est le gérant du bar Saint-Joseph, dit qu'il a vu dans ce casting party un potentiel de faire virer le bar. Alors ça, c'est son argument. L'argent n'a pas d'odeur. Et donc, pour lui, là, c'est pas grave. Il faut faire virer le bar. Et le collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement dénonce évidemment la tenue de l'audition porno AD4X à Québec. On dit que ce genre d'événement participe à la banalisation de l'industrie du sexe. Et je pense qu'elles ont bien raison. D'ailleurs, Québec hier a soufflé ses 411 bougies, soit dit en passant. C'était la fête de Québec hier. Ça prend un gros gâteau quand même. Bon, à part ça, dans la région de Montréal, bien sûr, aujourd'hui, il y aura une annonce importante qui va être faite. Le gouvernement du Québec et du Canada vont procéder dans le quartier Saint-Michel à la confirmation finale du prolongement de la ligne bleue du métro dans l'est de la ville jusque dans l'arrondissement Anjou. Alors, c'est une annonce qui va se faire en présence de Justin Trudeau, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, mais en l'absence de François Legault. François Legault ne sera pas là. Évidemment, on comprend là que c'est un petit peu une annonce politique. Ça doit faire la 15e fois qu'on annonce la ligne bleue au cours des dernières années, là. Puis elle ne se fait jamais. Alors là, il semble qu'elle va se faire. Alors, on devrait annoncer aujourd'hui, le fédéral devrait annoncer une aide, une contribution gouvernementale qui va s'élever à 1,3 milliard de dollars. Et le coût total du projet était estimé à 3,9 milliards, mais ça, c'était jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on avait oublié des trucs. Tu sais, oh mon Dieu, on a oublié ci, on a oublié ça. Il y a pour 600 millions de dollars de choses qui n'avaient pas été prévues, qui vont s'ajouter à la facture. Imaginez 600 millions quand même! Alors, le coût total du projet devrait s'établir à 4,5 milliards de dollars. Au moins, c'est pas comme le métro de Laval qui, à l'époque, au début des années 2000, on s'était rendu compte, hey, on a oublié un kilomètre de métro. Alors, je ne sais pas avec quoi, il n'y avait pas de Google Maps. Il faut croire dans le temps où ils étaient passés par-dessus, ils ne l'avaient pas vu. Alors, le prolongement de la ligne bleue prévoit 5 nouvelles stations qui vont s'étendre, en fait, sur près de 6 kilomètres dans, bien sûr, un tunnel. Et à partir de la station Saint-Michel actuelle jusqu'à l'arrondissement Anjou, et les 5 stations vont être construites dans l'axe de la rue Jean-Talon. La station terminale devrait être située à l'intersection de la rue Bélanger et du boulevard des Galeries d'Anjou, et sa mise en service est prévue pour 2026, mais ça, c'est si ça se fait, là, parce que je vous dis, ça doit faire 40 fois qu'on l'annonce. Alors là, on verra bien, n'est-ce pas, si c'est la bonne, mais là, il y a un bureau de projet qui avait été mis sur pied. Il semble que, quand même, on soit rendu un petit peu plus loin. Mais c'est pas... en tout cas, moi, je le croirais quand la grue, ou pas la grue, mais le tunnelier sera en train de creuser, puis qu'on progressera. D'ici là, je demeurerai sceptique. Ça, c'est intéressant, dans le Journal de Montréal, sous la plume de Pierre Couture. Vous savez, on s'étonne... Qu'est-ce qu'il y a dans le prix du vin? Pourquoi c'est cher acheter du vin au Québec? Parce qu'on va dans d'autres pays, on va aux États-Unis, entre autres, on va en Europe, en France. En France, tu achètes des bouteilles de vin, tu dis, mon Dieu, mais c'est bon ce vin-là. Puis tu paies ça presque rien. Des fois, tu as ça pour une chanson ou à peu près. Alors là, ce matin, dans le Journal de Montréal, Pierre Couture décortique le prix du vin pour nous montrer là, ce qu'on paye en réalité. Et d'abord, la prémisse, c'est le vin que vous allez trouver en dépanneur, par exemple, et même sur les tablettes de la SAQ, il y a beaucoup de vins qui proviennent de conteneurs. Ils achètent du vrac, des gros conteneurs de vin qui arrivent par bateau chez nous. Puis là, ben, on prend ça, puis on embouteille ça au Québec. Et là, on met ça, ces tablettes, puis on vous vend ça à prix d'or. Et là, on dit que du vin en vrac payé 84 sous pour la bouteille de 750 millilitres, et souvent vendu 15 $ c'est dans les dépanneurs. C'est un pas pire profit quand même. Et là, les données proviennent de l'Association américaine des économistes du vin qui indique que les importateurs de vin en vrac font des affaires d'or au Québec. Et là, je vais vous décortiquer le prix de la bouteille de vin. Alors, mettons pour une bouteille de vin qui se vend à la SAQ 15 $ Alors, le prix payé au producteur, celui qui a fait le vin, c'est 5,35 $ la SAQ se prend évidemment une marge, 6,17 $ La taxe de vente provinciale, la TVQ, 1,30 $ La taxe sur l'alcool du Québec, 1,05 $ La taxe fédérale, la TPS, 65 $ Et les droits d'assises et de douane du fédéral, 48 $ Ça nous fait 15 $ la bouteille. Alors, elle a été payée, je vous rappelle, initialement, 5,35 $ Quand même, un pas pire profit, quand même. Alors, c'est intéressant de voir. Remarquez, on fait souvent la même chose avec l'essence. Là, quand on regarde le prix payé par le détaillant, n'est-ce pas, dans les raffineries, puis le prix à la pompe, on fait souvent le saut. Mais là, en tout cas, c'est intéressant de voir de quelle façon on décortique tout ça. Et savez-vous qui pourrait être le sauveur, n'est-ce pas, du Brexit en Grande-Bretagne? Eh bien, nul autre que Stephen Harper, parce que, bon, il y a une course en ce moment là, pour savoir qui va remplacer Theresa May à la tête du Royaume-Uni. Il y a deux candidats en lice. Boris Johnson, évidemment, qui est l'ancien maire de Londres de 2008 à 2016, c'est le favori de la course. Mais il y a aussi Jeremy Hunt, qui est âgé de 52 ans, qui a remplacé d'ailleurs Boris Johnson à titre de ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi est dans la course. Et ce qu'a dit M. Hunt, c'est que si jamais il est élu à la tête du gouvernement pour remplacer Mme May, eh bien, il va faire appel à l'ancien premier ministre canadien Stephen Harper pour venir dénouer l'impasse du Brexit. Et là, M. Harper a dit, ben oui, d'accord, je serai d'accord, je ne veux pas me mêler de la course. Si vous demandez mon aide, je vais y aller. Alors, ce matin, dans le journal La Presse, on a demandé l'avis d'experts qui pensent que c'est quand même assez spécial que ce soit M. Harper, mais on dit, ben pourquoi pas, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, n'est-ce pas, de la chose. Et M. Hunt dit que Stephen Harper est un dur à cuire de la politique et pourrait donc être une bonne personne pour venir décortiquer l'impasse.